ici Raymond Poirier, bienvenue à cette édition de La vie en BD. Toujours un plaisir de vous retrouver ici pour parler bande dessinée. Et cette semaine, comme on s'est donné le plaisir et le loisir de le faire à quelques occasions, eh bien, on y va avec une grande rencontre, avec une longue entrevue. Et cette fois-ci, bien, on a décidé d'aller à la rencontre de l'artiste Obom, donc Diane Obom-Sawin, qui est active dans plusieurs cadres disciplinaires, donc autant le cadre littéraire à travers une pratique active en bande dessinée, autant dans la sphère des arts visuels que de l'illustration. Elle a donné dans l'illustration jeunesse récemment également du côté de Comme des géants. Elle offre du cinéma d'animation aussi. Donc, elle est active dans plusieurs éléments et même avec des expositions et des projets muséaux qui ont germé au fil des années. Donc, une artiste véritablement touche à tout qui nous amène de médium en médium et qui également amène ses œuvres de médium en médium. Alors, cette semaine à la vie en BD, eh bien, on vous propose une rencontre, une longue entrevue avec elle au fil de la prochaine heure. Alors voilà, donc Diane Obom-Sawin, cette semaine à la vie en BD. J'accueille évidemment notre invitée, Diane Obom-Sawin, alias Obom, bonjour.
Salut, Raymond.
Alors, Diane, en fait, je rappelle, tu as plus de 25 ans d'expérience dans le milieu artistique. Tu cumules de nombreuses bandes dessinées, de nombreux films également. Beaucoup de productions, très actives et très actives dans différents médiums. En fait, j'ai l'impression qu'aller à ta rencontre, c'est d'aller à la rencontre des artistes métis qui exprime dans le fond une démarche, un parcours, une approche visuelle et artistique, mais dans l'illustration, dans l'animation, dans la bande dessinée, voire même dans l'installation. J'imagine que c'est un peu fruit de la nécessité, justement, c'est cet élément, justement, d'aller vers une multiplicité de pratiques, de médiums, de supports.
Oui, c'est peut-être motivé par la curiosité. Le fait de la transposition, de s'amuser à transposer. Dans le fond, je pense que c'est assez facile. C'est agréable comme exercice de transposer ce qu'on fait, qu'importe, dans un autre médium. Et c'est un peu motivé par la curiosité, dans le fond. Qu'est-ce que c'est que pour l'installation là, récemment, la curiosité, c'est comment occuper un espace, comment raconter une histoire différemment que par un film. Mais dans le fond, ça part du même cœur, du même moteur. Et effectivement, il y a des différences. C'est assez intéressant de constater ces différences, de s'en rendre compte au niveau narratif. Par exemple, en installation, il y a pas de début et de fin comme dans un film. Personne s'assoit et arrive à la fin, au début et part à la fin. Il y a pas, c'est tout le temps, ça roule. Alors, pour que ça roule, il faut que la suite narrative soit comme différente que d'habitude, qu'on puisse arriver au milieu. C'est sûr qu'on peut manquer un petit bout, mais on sait que peut-être parce que c'est assez court, qu'en continuant, en faisant après le loop du début, on va mettre les morceaux du puzzle ensemble. Puis, je trouve ça très agréable, cette forme d'art aussi, cette façon de raconter des histoires. J'aime bien.
Parce que dans le fond, c'est un peu là la clé. C'est toute histoire n'est pas nécessairement pour tout médium. En fond, il va y avoir une approche narrative dans l'installation qui ne sera pas la même que pour la bande dessinée, qui ne sera pas la même que pour le cinéma non plus. Donc, ce qui fait que j'imagine qu'au départ, on se dit « OK, je veux raconter telle histoire, donc quel médium s'applique » ou « Je veux explorer tel médium, quelle histoire dans celle que j'ai en banque pourrait m'amener à pouvoir travailler avec ce médium-là? »
Oui. Il y a par exemple le mangeur d'orgue qui marche bien mais c'est le seul en fait que j'ai fait en installation qui marche comme film, mais les autres films que j'ai fait en installation marchent pas du tout comme film, mais ça je le savais pas parce qu'il y a pas d'intrigue, il y a juste une atmosphère en fait. Dans le mangeur d'orgue, je me suis servi d'un... Enfin, je puise beaucoup dans les rêves. Et d'ailleurs, l'exposition d'installation que j'ai fait, c'était parce que je m'intéresse aussi à la mythologie grecque et je trouvais que la mythologie et les rêves étaient un peu, il y avait comme un peu une similitude dans le sens où on peut, mais c'est très exagéré la mythologie, mais il y a un enseignement, on peut en tirer un enseignement pareil que pour les rêves, pas tous les rêves, des fois ils restent complètement obscurs, mais souvent ils sont très révélateurs. Il m'arrive des rêves où ouh là là, c'est sont vraiment révélateurs et donc je trouvais ça intéressant de mélanger les deux, rêves et mythologie. Donc je sais plus où je veux en venir. Et oui, alors il y a eu le mangeur d'or qui était pas un rêve. Je sais pas, ça vous arrive, ça arrive souvent, sûrement à tout le monde. On n'est pas conscient de ça, on se réveille le matin avec une phrase complètement absurde, mais à part vite. Puis un jour, je me suis réveillée avec la phrase, juste une phrase, même pas un rêve, le mangeur d'orgue. Puis je trouvais ça tellement beau comme phrase, et je trouvais que c'était le genre de phrase qui pouvait facilement faire une histoire. Tu peux imaginer un mangeur d'orgue, ok. S'il mange des orgues, il faut qu'il rentre dans une église. Ah, c'est très drôle, ok, on pourra rester à l'extérieur de l'église. Il est comme un peu un bandit de mangeur d'orgue, il n'est pas supposé. On peut faire ça aussi, comme il regarde à droite, à gauche, il rentre dans l'église. Puis et là, j'ai beaucoup joué avec le son, parce qu'il n'y a pas d'animation dans cette animation. Ça, j'aime beaucoup. Il y a un ou deux films d'animation comme ça, il y a des films, mais sans mouvement, pas du tout de mouvement. Mais il y a une porte ouverte ou une porte légèrement entrouverte et on imagine ce qui se passe derrière la porte avec le son. Puis tu jurerais qu'il y a en fait de l'animation.
On suggère l'idée du mouvement, on suggère l'idée de l'action.
Des déplacements, on entend les pas de l'orgue qui monte les escaliers, puis là il mange l'orgue et puis là c'est vraiment comme un mélange de sons d'orgue et des choses qui se cassent. Et à la fin, il fait un petit roux d'orgue avec un son d'orgue qui sort de, puis il ressort de la porte complètement, complètement grossi. Vraiment gros, plus gros que quand il est rentré. Et là, tout ça s'est rajouté après parce que c'était ce genre de phrase de mangeur d'orgue. C'est facile de trouver une histoire après. Puis là, pour m'amuser, il dit, bon, il sort de là. Ah, il pourrait avoir un petit personnage qui lui demande son chemin. Où est la rue Papineau, s'il vous plaît? Puis là, il veut dire, c'est par là. Mais quand, au lieu de sortir, c'est par là, ça sort un gros son d'or qui fait virevolter le petit personnage. Et puis ça finit là, le film. Ça dure pas longtemps. Mais c'est le genre de surprise de l'inconscient qui est vraiment agréable. Là, ça se prête bien à faire une histoire, mais une bande dessinée, ça aurait été un peu court. Un film d'animation avec la porte ouverte et tout ce qui se passe avec le son, ça marchait bien.
Et j'imagine que quand on approche justement avec les rêves, par exemple, avec des inspirations un peu comme ça, spontanées, d'un côté, des fois, il y a des significations qui viennent d'elles-mêmes, des conclusions qui s'imposent. Et parfois même, j'imagine qu'il faut accepter de faire un premier jet très rapidement, dans le fond, qu'on s'installe, on écrit, on dessine, pour ne pas perdre le détail, capter absolument l'essence, l'idée de ce qui est ressorti.
Absolument, absolument. Puis ça, c'est vraiment important d'aller vite. Parce que ce n'était pas important de retracer. J'ai tourné à droite, la porte était ouverte, j'ai vu quelqu'un, mais je suis pas sûre que je le connais, mais c'est peut-être ma belle-mère, mais c'est peut-être mon chien, je suis pas sûre. Faut pas trop essayer de faire ça, c'est vraiment comme ce qui sort le plus vite, porte gauche, c'est vert, un petit bonhomme arrive, puis là, en dessinant vite, puis en le racontant vite, je fais des petits bonhommes aussi dans mon carnet de rêves, là, pas juste écrit. Parce que comme ça, je suis plus contente d'aller leur lire, ça me fait plus rire, puis il peut sortir quelque chose d'autre aussi avec le petit bonhomme de plus vivant. Puis aussi, en dessinant, puis en racontant vite, je me censure pas. Et là, il sort, c'est comme une adaptation naturelle, sans réfléchir, mais il y a déjà une adaptation. Forcément, il y a une adaptation. On ne peut jamais restituer un rêve d'aucune manière exactement comme il a été plaqué sur autre chose. C'est impossible. Puis ce qui est très intéressant, c'est que quand j'ai réalisé qu'en écrivant vite comme ça, il apparaît une signification que j'aurais pas pu deviner si je l'avais pas écrit. Puis ça m'est arrivé de l'écrire, puis après je me dis ça fait une bonne bande dessinée, ça ferait une, enfin, pour m'amuser en tout cas, je sais pas si c'est bon ou pas bon, mais pour m'amuser c'est bon. Et puis là, en la remettant en bande dessinée, il y a une autre adaptation. Et à chaque fois, il y a un autre sens qui ressort. J'ai l'impression que si je le retranscrivais encore une fois pour écrire une nouvelle, pour littéraire, il ressortirait encore un sens. C'est fascinant. J'aime beaucoup cet exercice.
Oui, puis même, en fait, quand on parle de la science, en fait, je pense que tu ouvres la porte justement à l'idée de prendre, par exemple, on crée quelque chose pour la BD ou pour une animation, éventuellement on choisit, puis je prends l'exemple de Caspar, de Jeune Fille, ici ou ailleurs et autres, dans le fond, quand on l'amène dans un autre médium, nécessairement, on ne peut pas faire la même histoire. Donc, encore là, c'est une adaptation.
Oui.
Donc, tu t'adaptes toi-même aussi. Puis j'imagine qu'on retourne un peu à l'histoire, puis on essaie de se dire, OK, si je fais un film avec ça, c'est quoi les éléments constitutifs? Oui. Et encore là, il faut que tu acceptes de passer à la hache certains éléments, puis de repartir presque de zéro là, dans certains cas.
Complètement. Puis je pense à en faire un autre objet. C'est pas du tout un... Gaspard bande dessinée ou Gaspard film, c'est pas du tout la même chose, en fait. C'est pas le même... C'est mon chien. Oui, et j'aime les filles aussi, parce que j'aime les filles, c'était 10 histoires. Pas très longues, mais quand même, les filles pourront parler pendant 20 minutes à peu près, puis ça, j'ai presque tout gardé, mais c'est quand même déjà une retranscription, plus ou moins une adaptation, mais j'ai quand même gardé fidèlement leurs phrases. Bon, ça fait 10 histoires en bande dessinée, mais en film, il a fallu en choisir juste 4. Puis dans les 4, les mettre dans un entonnoir pour qu'ils en sortent juste quelques petites... l'essence de quelque chose.
Mais... Un peu une synthèse, dans le fond.
Oui, synthèse, oui. J'ai l'impression de faire des... Pour Gaspard, je sais pas pourquoi j'aime les filles, mais pour Gaspard, j'avais l'impression de faire un haïku de l'histoire de Gaspard. Enfin, vraiment, c'est hyper synthétisé. Parce que moi, pour Gaspard, j'avais lu 3 livres importants, je trouvais importants. Il y en avait un que j'aimais en plus que les autres, c'est Histoire 2 et par Gaspard Hauser. Ça, c'était une mine d'or. Parce qu'il y avait tout un chapitre, c'était l'écriture de Gaspard lui-même, c'est lui qui parle. Quand il a appris à lire et à écrire, il a commencé à vouloir raconter son propre récit. Et ça, c'était très touchant. Mais bon, ce que j'ai fait, c'est que j'avais des carnets, puis j'écrivais ce qui me semblait important, mais c'était très, comment on appelle ça, subjectif, hyper subjectif. Puis aller assez vite, pas trop m'attarder, parce que j'en aurais jamais fini. Bon, ça, oui, puis là, je l'écrivais dans un carnet. Ensuite, ça faisait un bon carnet pour... ensuite, pour faire la bande dessinée, il a fallu aussi repasser et refaire un autre carnet avec ce qui est le plus important du plus important. Puis après je l'ai fait en bande dessinée. Ensuite, il a fallu refaire l'exercice pour le film. L'important du plus important du plus important. Je ne sais pas si je m'explique bien, mais puis ça a fait le film. Mais puis pas avec les mêmes dessins. Et naturellement, c'était comme différent, visuellement.
Et peut-être pour faire un pas de recul, contextualiser peut-être un peu Caspar, s'il y en a qui nous écoutent, qui ne l'ont pas lu encore, qui liront, je l'espère, après la rencontre. Donc, vous êtes intéressé, je le rappelle, à la figure de... Ben, tu t'es intéressé à la figure de Gaspard Hauser, donc qui est un jeune Allemand qui était qui a été retrouvé, en fait, qui est apparu littéralement dans une rue de Nuremberg en 1828. Il grognait, il tibutait, et il va finir par prétendre, à juste titre ou non, on ne sait pas, c'est ça la magie de la chose, qui a été retenu prisonnier dans une cave pendant toute son enfance. Je pense que outre vos films, il y a aussi... Werner Herzog, qui avait fait un film sur Caspar également, qui a dû être assez marquant de ton côté. Donc, c'est Qu'est-ce qui t'avait happé peut-être au départ dans cette histoire-là? Est-ce que c'est la poésie qu'on peut en tirer?
Vraiment, oui. J'étais sidérée quand je l'ai vu, ce film-là, mais beaucoup d'entre nous aussi. Le film de Herzog, quand je suis tombée à terre quasiment, ça m'a jeté à terre, ce film-là, de Herzog en 1981, je pense. Je me dis, c'est quoi ça? C'est quoi comme, pas juste comme histoire, mais comme film? J'étais comme presque fâchée. Ça m'arrive quand c'est trop beau. Quand j'ai découvert Césaria Évora, j'étais fâchée. Ça me faisait trop mal. C'était trop beau. Puis ça m'a fait la même chose avec l'histoire de Gaspard Hauser. C'est tellement beau, mais c'est parce que c'est un personnage immensément poétique, malgré lui, parce que tout est nouveau pour lui. Quand il sort de sa cave, il a été enfermé de 2 ans jusqu'à 17 ans. Poum, là, d'un seul coup, il sort. Il a appris 3-4 mots comme maison, cheval, son nom. C'est la personne qui l'a gardé captif qui lui a appris ces mots-là. Ensuite, je pense parce que c'était un homme attachant. Parce que s'il était attachant, alors il s'est attiré la sympathie de pas mal de monde. Et ça l'a sauvé. Parce que je pense que c'était déjà un idiot par rapport aux gens, un gars titubant, les jambes super arquées, parce qu'il s'était à peine tenu debout dans sa cave, il était toujours assis. Puis l'homme qui le gardait captif lui a appris à marcher, mais juste avant de sortir de la cave, il était vraiment les cheveux longs, tout pouilleux, les jambes arquées, cheval, comme il disait juste cheval. C'est-à-dire, à chaque fois qu'il voyait quelqu'un, il partait à sourire, il était immensément content de voir quelqu'un. Puis ça le ravissait totalement, et je pense que ça l'a aidé à s'attirer la sympathie. Puis il y a eu beaucoup de tuteurs, des gens qui se sont occupés de lui, même un tuteur de la bourgeoisie, un professeur, était dans une bonne famille. On lui a fait friser les cheveux, il était tout pomponné, il jouait du piano, il a appris à jouer à peine l'aquarelle, à danser, mais tout le temps, tout ça avec son côté immensément poétique et enfantin, parce que toute la vie lui tombait dessus, et ce que nous on prend pour acquis, pour lui c'était pure découverte. Par exemple, la neige, ben c'est l'exemple que je sors le plus souvent, mais il y en a des tonnes. Quand il neige, il pense que tout a été repeint en blanc pour la première fois qu'il voit de la neige. Puis quand il veut prendre la neige, il dit « Ah, la couleur blanche m'a mordu les doigts ». Mais ça, et il est comme ça tout le temps, tout le temps. Puis il pense qu'il est animiste, en fait, parce qu'il pense que les choses ont une vie, tout a une vie, comme une feuille qui bouge dans le vent, c'est la volonté de la feuille de bouger. Et donc, c'est un régal pour... on peut passer une vie à parler juste de Gaspard Hauser, en fait.
Et justement, dans l'ouvrage, en fait, tu le racontes à la première personne, j'ai l'impression que tu t'es un peu... tu t'es forcé ou tu t'es vraiment mis dans ses pieds, dans son regard, pour après ça le rendre sur la...
Oui.
Donc ça me donne une interprétation à travers ta sensibilité aussi, à travers un regard que tu prenais, qui était naïf, enfantin, peut-être un peu sur la vie, sur les choses. Ça doit être particulier comme démarche d'écriture aussi.
Ben, ça allait bien avec ma personnalité, j'ai l'impression, parce que j'étais un peu comme ça quand, pas autant, mais quand j'étais jeune, ça me replonge dans une sensation d'enfance, un peu de... Comment ça se... C'était pas formulé comme ça, mais comment ça se fait que tout le monde sait où est-ce qu'il faut aller exactement? Et puis, c'est comme où prendre un livre? Je voyais les gens arriver à une bibliothèque, choisir un livre. Comment ils savent que ce livre-là est là? Comment ils savent que... pourquoi? C'était comme un peu perdu, en fait. J'ai appris à lire très tard. Des choses me paraissaient étranges et... Ouais, je me suis peut-être un peu identifiée, je ne sais pas, tu imagines. Ouais, Jeanne, on a fait 14 écoles avec mon frère. Donc, on était peut-être... Mais mon frère était beaucoup plus solide, en fait. Il était mieux à l'école. On dirait qu'il comprenait plus la vie. Quoique, en lui parlant maintenant à l'âge adulte, il dit oh, on était perdu. On ne savait pas comment. Comme par exemple, un exemple. À l'école, il y avait une cour intérieure dans une des écoles, puis il y avait des lignes avec les écoliers pour aller rentrer dans leur classe, mais tout le monde savait dans quelle ligne il fallait aller, puis moi, je savais pas. Puis je me mettais dans une ligne au hasard, puis je me rappelle encore quelqu'un venir me chercher de la ligne pour rentrer dans une autre ligne, pour rentrer dans la... Donc, je pense que ça touche quelque chose de mon enfance. Ou alors... le masculin singulier, pluriel, féminin, masculin, pluriel, singulier. Je pensais que c'était un jeu de hasard. Parce que quand on me demandait est-ce que ce mot c'est quoi, je disais ben, masculin, féminin. Puis là, c'était pas la bonne réponse, mais je pensais que c'était juste parce que c'est comme une roue qui tourne, puis meilleure chance la prochaine fois. Les dictées, je ne comprenais pas le rapport entre quelqu'un qui parle puis écrire. Fait que j'écoutais. Alors, je dis, qu'est-ce qu'ils font tous à écrire? Alors là, je me dis, bon, mais peut-être je vais écrire la même chose. Là, je copiais. Là, ce n'était pas ça qu'il fallait faire. Et j'avais des éducateurs pas patients. Une fois, j'ai un éducateur pas patient du tout qui m'a mis au fond de la classe. Il dit, reste là, ça, bouge plus. Fais ton mieux, et ça je l'ai mis dans mon film Ici par ici. Puis j'ai eu d'autres éducateurs à l'âge de 13 ans qui m'ont vraiment aidé beaucoup, beaucoup. Puis j'avais commencé à faire du dessin, puis c'est vraiment par la pédagogie que je me suis épanouie. Autant par des pédagogues qui ne comprenaient pas du tout qu'est-ce que je pouvais vivre et qui m'ont juste mis dans le fond de la classe. Il y avait aussi, on apprenait un mot en anglais, je me rappelle, le mot pomme, qu'il fallait mettre, le devoir qu'on avait à faire, c'est de coller le mot une pomme, une image de pomme à côté du mot pomme. Et moi, je pensais qu'il fallait mettre n'importe quelle image qu'on trouvait jolie. Fait qu'il y avait des paysages de chasse en Bavière, tout ce que je pouvais trouver le plus beau à côté du mot que j'apprenais. Puis ça faisait pas l'affaire. Hein, puis ça l'a fâché. C'était le prof-là qui avait pas bien saisi où j'étais rendue. Ça l'a fâché. Puis je me disais, ben, c'est pas assez beau. Je me suis trouvé encore plus beau. Enfin, tu vois, c'est ça. Alors, Gaspard, je pense que ça a été motivé par ça.
Et je t'ai tombé, en fait, parce qu'on se trouve un peu à la porte de ton enfance. J'avais lu, je pense que c'est dans une classe de maître, tu avais identifié une planche pour illustrer ta jeunesse. C'est un personnage qui se rendait dans un hôtel, le réceptionniste lui donne sa clé sans lui dire c'est quoi le numéro de la chambre. Elle doit la trouver, donc, dans les 165, et à un moment donné, tu finis par trouver la porte. Mais, dans le fond, dans la chambre, il y a un monstre. Passé la première frayeur, finalement, tu vas fraterniser avec ce monstre-là.
Oui, qui est moi, en fait. Que je découvre ma place. Mais ça a vraiment un rapport avec l'identité, peut-être. Quelqu'un m'a fait remarquer que Gaspard, c'est un film sur l'identité. J'avais jamais pensé à ça comme ça. Mais oui, c'est un peu... comment être dans ce monde-là, en fait, peut-être, c'est ça. Puis dans je te remercie de citer cet exemple-là, parce que c'est un des rêves forts, là. On entendait un monstre hurler dans la ville. T'es à la campagne, mais qui c'est ce monstre qu'on garde captif? Puis, qui criait. Finalement, je rentre dans le château et comme tu dis, c'est juste parce que ma mobylette était en panne. Puis là, quelqu'un me dit, ah, on vous attendait, vous avez une chambre dans cette... C'est une place à soi. Hein, c'est ça. Et puis, je trouve la chambre, il y avait 165 chambres. Puis c'était la dernière, c'était ma chambre, c'est là où habitait le monstre. Puis en fait, le monstre, c'était moi. Puis à partir du moment où j'ai découvert moi, le monstre a arrêté de pleurer.
Donc une fois qu'on réussit à trouver sa place, à être assez... En fait, le moment où on réussit à s'asseoir puis à s'affirmer, dans le fond, au bout du compte.
Oui. Puis juste être comme... se trouver à la bonne place avec les gens qu'on aime, pas se mettre dans des situations qu'on n'aime pas. Ça m'a pris du temps, ça. J'aime pas faire les fêtes. Bon, j'en fais plus. J'ai jamais aimé ça, des fêtes. Mais le nombre de fêtes que j'ai fait où j'étais malheureuse, ben, c'est peut-être pas la peine.
Et la volonté de trouver sa place ou d'accompagner d'autres aussi en cherchant la leur, est-ce qu'on pourrait presque avoir l'impression que c'est aussi un peu à l'origine de J'aime les filles, ta dernière BD qui
Oui,
remonte
oui.
déjà à quelques années, où dans le fond, tu explores une série de premières fois ou les moments où, en fait, les moments où on se rend compte qu'on a une attirance pour les femmes, qu'on est une femme, qu'on a une attirance pour les femmes, un peu comme, je pense, c'est Michel Tremblay qui disait aussi, c'est comme dans un de ses romans, puis ça, je t'avais vu le citer dans entrevue, mais le moment où le déclic se fait, où on se rend compte que, ah, OK, c'est ça finalement, c'est là où je me place aussi dans la dynamique entre les genres.
Ah, c'est important de le souligner, ça, effectivement. Je n'avais pas fait tout à fait lien, mais c'est un rapport à trouver sa place aussi. J'ai un témoignage. Moi, je ne l'ai pas trop vécu mal, mais je n'ai pas eu une crise par rapport à ça d'identité. Mais j'avais une amie vraiment qui était malheureuse et elle ne savait pas pourquoi. Mais c'est juste parce qu'elle n'était pas avec les personnes avec qui elle pouvait être bien. Elle n'était juste pas bien. Et ça lui a pris vraiment du temps. On ne sait pas toujours pourquoi on n'est pas bien. Et ouais, ça n'arrête pas tout, remarque. Après, il y a les peines d'amour et tout. Et des fois, on n'est pas nécessairement avec la bonne personne. Après, c'est une autre histoire. Là, c'est mon prochain film. Là, c'est ça s'appelle Je ne t'aime plus. Ça vient d'un rêve. Et c'est plutôt un rêve, un cauchemar. C'est le sujet, ça. C'est quelqu'un qui, pour être aimé, s'adapte à tout prix à la personne aimée. Puis c'est l'effet contraire parce qu'il en perd de sa substance et finit par ne plus être aimé vraiment parce qu'il en fait trop. Et pense un peu comme les faire du dessin avec la prof, il pense que il est juste parce qu'il est passé aimable, alors il est encore plus aimable, mais ça le rend encore plus niaiseux. Puis ben c'est ça, c'est le prochain film. Mais je le fais comme un thriller psychologique, un peu à la Hitchcock, j'espère. Et ça va être un peu différent, complètement différent, mais pas différent au niveau de la racine, hein, de ça, de trouver sa place. C'est vraiment ça dans tout, en fait. En amour, que ce soit avec un homme ou une femme, mais au moins d'être avec la personne qui nous aime et puis qu'on aime. Sinon, il faut au moins être aussi bien avec quelqu'un qu'on est tout seul. Sinon, ça ne vaut pas la peine. C'est une autre histoire. C'est peut-être... Là, ça parle de... C'est plus large, en fait, je pense. Les gars, les filles.
Dans le fond, dans l'approche, au bout du compte, c'est qu'on se challenge aussi, on développe autre chose, une autre approche, un peu comme tu viens de le faire avec l'installation, avec l'exposition aussi.
Oui.
Donc, dans le fond, encore là, on continue à essayer des nouvelles choses, expérimenter, puis
oui.
J'imagine pousser un peu sa pratique plus loin en l'abordant différemment, dans le fond.
Oui. Là, en ce moment, je regarde plein de vidéos sur le cinéma. C'est quoi du cinéma? Je sors des livres sur... l'écriture dramatique de Yves Langelier, juste par curiosité, mais j'essaye pas d'ingurgiter. C'est pas comme. C'est pas pur plaisir. Après ça, puis j'apprends des trucs, et puis je suis fascinée par le cinéma, du coup, parce que c'est complexe, beaucoup plus que j'avais pensé. Mais oui, les cadrages, tout. Après ça, peut-être que je vais faire complètement. parce qu'avant, je faisais des théâtres d'animation.
Je dis oui, ça. Si on pense à Distance, entre autres, en fait, qui était littéralement ça. Là, c'était un plan fixe avec fond de l'action qui se développait autour.
Oui. Comme Gaspard, puis j'aime ça me donner avant un film. Depuis Gaspard, je le fais. Avec Ici, par ici, c'était pas conscient. Mais avec Gaspard, je dis, tiens, cette fois-ci, on va faire que le personnage, il sort jamais de l'écran. et que tout en arrière, c'est le décor qui sort, qui sort, qui rentre. Mais Gaspard, on ne perd jamais de vue. Puis, mais ça reste du théâtre. Ça s'appelle pas comme ça. Y a pas, mais je trouve que ça ressemble à ça. On pourrait très bien être assis, et puis tu sais à peu près à quelle chaise que tu es assis dans le théâtre. Puis tu vois mon film, et y a la petite scène, puis ça c'est tout. C'est toujours comme ça et comme ça. Alors que là, je vais faire vraiment un effort, faire bouger comme ça.
Encore là, de développer plus loin, mais j'imagine, ouais. un peu avec les leçons et le bagage que tu as acquis au fil des années, on parle de distance. J'ai tombé à quelque part où tu disais que il y avait des enjeux avec les personnages, que tu n'étais pas capable de les garder toujours exactement à même taille, puis qu'à l'époque, dans le fond, tu n'as pas accepté l'erreur ou la dérive, puis tu te l'es approprié, tu as lutté contre cette dérive-là, plutôt que de l'embrasser, dans le fond.
Oui, j'aurais pu l'embrasser aussi, c'est vrai. Mais tout est un choix de départ. Hein. Un vaut aussi bien que l'autre, comme j'aurais pu dire. OK, ce film-là... advienne que pourra, puis il commence à telle taille, puis advienne que pourra, s'il rétrécit comme ça. C'est comme ça, puis après, ils peuvent regrossir pour essayer de retrouver leur place. Puis après, ça peut être drôle. Ou alors, dès le départ, je dis, bon, là, il faut qu'il absolument qu'il bouge pas de taille. Parce que c'est décidé d'avance. Parce que sinon, ça va nous distraire d'histoire ou...
Dans l'absolu, j'imagine que l'enjeu, quand on développe aussi au cinéma, c'est qu'à la longue, puis on parlait de bagage, donc plus d'une vingtaine d'années d'expérience là-dedans, à la longue, j'imagine qu'on finit par embrasser le fait qu'il n'y a pas une méthode, mais qu'il y a une multiplicité d'approches, qu'il y a une multiplicité de visions, puis et qu'au bout du compte, on fait comme on veut. Puis...
comme un peu, comme on veut peu, puis... Oui. Comment ça sert le mieux le film aussi, peut-être. Comment on pense que ça sert mieux le film. Puis après, il vaut mieux s'en tenir parce que c'est tellement long faire un film que si tu dis « Ah non, finalement, je change d'idée », ben, si tu viens de perdre, ça prend... Ça t'as encore une autre année pour retourner en avant, plus 2 ans pour aller en avant. C'est un peu comme l'armée prussienne. Il paraît qu'il marchait 2 pas en avant, 2 pas en arrière. 3 pas en avant, 2 pas en arrière, ils sont morts comme ça. Au moment où tout le monde connaissait la stratégie, et tout le monde était commencé à se cacher, à faire des stratégies, tout ça, puis eux, ils étaient avec des plumes. Mais là, je tergiverse, là.
mais c'est justement peut-être un peu défausser la richesse de ton approche et que tu laisses l'esprit des fois aller, puis il y a une part d'instinct qui est très présente dans ta manière de créer, puis où l'esprit fait des liens des fois, puis on ne comprend pas sur le coup d'où ça vient, mais des fois, en le laissant aller, on arrive à quelque part qui est complètement insoupçonné, mais qui est beaucoup plus riche que l'endroit où on pensait aller initialement, dans le fond.
Je ne sais pas, c'est assez... je n'ai pas beaucoup de surprises à ce niveau-là. Parce que le gros travail, surtout en animation, il est... Peut-être que je devrais me faire des petites surprises des fois. J'ai le goût une fois de faire un film où je ne l'ai pas encore fait. Il faudrait que je trouve une histoire qui marche avec le style cette fois-ci. J'aimerais beaucoup que j'ai le début et l'arrivée en animation, puis advienne que pourra entre les deux. Ça, j'aimerais beaucoup faire ça. Là, même le personnage peut disparaître, devenir autre chose.
C'est probablement moins casse-gueule en bande dessinée parce que justement, il y a moins d'outils nécessaires.
Oui. En bande dessinée, je ne saurais pas comment faire. En animation, c'est plus facile parce qu'il y a un plaisir du mouvement. Comme advienne que pourra, il peut marcher croche. Il peut d'un seul coup, la tête devenir petit comme un raisin, puis disparaître, tout réapparaître, puisque là, on joue avec le mouvement. Puis là, ça peut être très, très marrant. Entre chaque point A, point B, c'est que ça, en fait, l'animation. Tu commences un point A, un point B, un autre point A, un autre point B, un autre... Peut-être, enfin, c'est pas juste ça, en fait.
Puis des fois, le mouvement doit être assez assis aussi. Tu sais, je pense à J'aime les filles, tu avais choisi de le faire en rotoscopie pour assurer des mouvements plus souples aussi.
Mais ça, j'étais obligée parce que ça, il faut. En fait, ça sert le film. C'est toujours un peu ça, l'histoire, en fait. Là, il fallait, parce que je voulais que les filles aient vraiment une sensualité. C'était important, c'était parce que je voulais qu'on s'approprie ça, au moins, la sexualité. Parce que des fois, on pense qu'on fait rien, ou qu'on est juste des copines, ou je sais pas, enfin. Puis, c'est pas important, on n'a rien à prouver, mais au moins, comme, pour se l'approprier pour nous, comme, toute la sensualité, au moins la sensualité. Puis moi, mes bonhommes sont pas très sensuels en partant, parce que c'est pas très bien dessiné, c'est un peu, tu sais, ils ont pas de coups. Je les aime bien, mais je peux pas dire qu'ils sont très sensuels. Puis je voulais qu'il y ait, donc, et puis aussi, ça aurait pu être drôle, remarque, mais c'est pas ça que j'ai fait.
Mais donc, c'était pas l'objectif non plus.
Non, c'est ça, mais je voulais vraiment de la sensualité. Puis deux corps qui se touchent, c'est très dur à faire en animation. Ça double la difficulté. Parce que juste comme faire un beau mouvement comme ça, c'est compliqué. Sauf si tu fais en rotoscopie, mais si tu fais pas en rotoscopie, mais si tu veux faire les deux comme ça, ça double la complexité. Alors, vu qu'il y a des corps qui s'enlacent, des mains qui s'enlacent, donc on voulait engager des comédiennes, mais quand mon producteur m'a dit « Bon, mais il va falloir que tu penses à la psychologie des personnages », j'ai réalisé qu'il y avait zéro psychologie dans ce film-là. C'est pas un film de psychologie. Alors là, j'ai dit non, il n'y en a pas. Et là, on a pensé peut-être des danseuses à la place. Puis c'était juste parfait, en fait, des danseuses. Donc c'est ça. Et donc c'est de la rotoscopie. Tu filmes quelqu'un, ou un objet, ou une main, ou quoi. Puis après, tu redessines par-dessus. Donc j'ai redessiné. Mais elles étaient toutes menues. Ces filles-là, mais en dessin, elles avaient l'air grosses, c'était drôle. J'ai dû redessiner comme un bras. Peut-être que c'était trop proche de la caméra, je ne sais pas. Alors, j'ai redessiné pour que ça marche avec mon style de dessin. Et puis mettre un petit visage à la place d'animaux. Il y a un sacré raccord, mais ça a marché finalement.
Ça montre bien aussi quand on parlait d'une approche transit d'un médium à l'autre. Par exemple, d'aborder la question de la sensualité dans le film J'aime les filles versus dans le livre, où la sensualité est présente aussi, mais mm-hmm. c'est pas les mêmes enjeux, c'est pas les mêmes problèmes, c'est pas les mêmes défis.
C'est ça. Par contre, c'est vrai que dans la bande dessinée, j'ai eu recours à des photos, à des peintures. Hier, en arrière, là, ce qu'on voit, le livre, là, la page couverture, je pense qu'il y a un courbé là-dedans. Puis après, par-dessus, c'est une photo. J'ai mélangé. Mais ça vient de documents bien dessinés ou bien photographiés. C'est pas mes dessins. Je ne pourrais pas faire comme ça.
Et peut-être enfin encore là pour les quelques-uns qui ont peut-être pas lu J'aime les filles et qui le feront après l'entrevue, forte suggestion. Donc, dans J'aime les filles, t'offre une collection de courtes histoires sur l'identité sexuelle, sur les premières fois, sur les déclics, on l'a mentionné un peu, l'élément, les déclics qui se font en cours de route, les premières attirances à la limite aussi.
Un peu inconsciente.
Oui. Et qu'est-ce qui t'avait lancé vers ce sujet-là, justement?
Je trouvais que c'était le temps, là. C'est par ma propre révélation, j'ai eu une révélation à 40 ans, non, plus tard que ça. Je suis encore en train de tomber en amour. Puis là, j'ai dit, c'est vraiment un besoin quasiment. Puis là, je me suis rappelé que ça date depuis l'âge de 6-7 ans. À l'école, que j'avais envie de tomber en amour. Quand je t'expliquais, j'étais toujours nouvelle dans une école, j'arrivais dans une école, puis le premier réflexe, c'était de choisir une fille avec qui j'allais tomber en amour. C'était quasiment la première chose à faire. Puis je m'en tenais, j'étais vraiment en amour. Mais souvent, c'était une plus vieille. Et puis, donc, à la récréation, c'est ce que j'avais à faire, que j'aimais faire. Mon cœur commençait à battre un peu plus vite. Puis, je regardais comment elle marchait, comment elle jouait, comment elle parlait avec ses... Puis, c'est comme quand j'ai réalisé que je faisais... en même temps, que j'arrêtais pas tout le temps de tomber en amour, puis que ça remontait à cette époque-là, ben là, je me dis, ce serait drôle de savoir mes amis comment pour elles ça s'est passé. Puis ça a super bien répondu à la question depuis quand remonte le premier désir amoureux, même un peu semi-inconscient. Ça c'était vraiment... j'ai eu des belles surprises par rapport à ça. Pour d'autres, c'était conscient dès le début, clairement conscient, assumé, et pas facile. Surtout pour les filles qui ont à peu près 5 ans de plus que moi, on tombe dans une génération, pour moi ça allait, mais on tombe dans une génération pour qui ça a été très difficile, surtout dans les campagnes. Et j'ai vraiment des amis qui ont vraiment souffert beaucoup. Et puis, je ne me rappelle plus, j'étais partie vers quelque chose, mais...
Oui, je vais ouvrir une autre porte, tiens, parce que dans le fond, on parle, dans ce recueil-là, on a vraiment beaucoup de témoignages comme ça qui s'accumulent, qui sont mis côte à côte. C'est des courtes histoires, donc des moments, des instants, des flashs. Et j'ai l'impression que les mettre un peu côte à côte comme ça, ça devient au final l'histoire de tout le monde.
Oui, absolument. Au début, je m'étais un peu trompée dans mon approche. La première amie que j'ai interviewée, je l'ai laissée parler pendant 2 heures. Après, elle m'a dit qu'elle avait été hyper déprimée toute l'après-midi parce qu'elle a commencé à raconter tout, les peines d'amour, tout, enfin... Puis ça l'a déprimée. Puis je dis, non, je veux pas ça. Puis de toute façon, je sais pas l'histoire. Je m'étais trompée. C'était pas l'histoire de cette personne-là que je voulais raconter. Donc il fallait que ce soit... Je voulais son histoire avec l'autre et l'autre et l'autre histoire. Donc, et mes autres amis, j'ai pas plus que 15-20 minutes maximum. Vas-y, comme ça, là, comme ça vient... Et c'était beaucoup plus facile à réécrire. Puis aussi, ça faisait, comme tu dis, beaucoup plus... Mais je m'en suis tirée bien quand même avec mon amie qui a parlé 2 heures. C'est la dernière histoire dans l'album. Ça fait un 14 pages, mais c'était... Ah, parce qu'elle avait plein de choses à raconter. Elle avait 7 blondes à un moment donné. C'était son emploi du temps. Elle n'avait pas le temps de faire autre chose. Elle sortait d'une blonde, elle allait vers une autre blonde. Elle sortait d'une blonde, elle allait chez une autre blonde. Elle n'avait pas le temps de faire autre chose. Puis donc, ça, elle ne l'est pas ni dans l'album, ni dans le film, je ne l'ai pas lu. Mais, alors justement, comme tu dis, l'histoire de tout le monde, j'aime beaucoup ça. Et j'ai un regret par rapport au film. Il n'y a qu'une histoire. Et j'ai choisi celle que je pensais la plus drôle, la plus triste, la plus romantique, et la mienne, pour m'inclure. Mais j'ai un gros regret de ne pas avoir mis une cinquième histoire. Parce que je pense qu'avec la cinquième histoire, ça aurait fait plus comme elle, et elle, etc. Alors que là, ça se ferme sur les quatre. Ça, c'est un regret.
Ça fait trois un esprit d'ensemble qui est autosuffisant dans le fond parce qu'on a une certaine variété.
Oui, mais ça ne fait pas comme etc. Je pense que ça aurait fait on peut continuer après.
Et dans les personnages, en fait, tu as été vers des personnages anthropomorphiques aussi. Oui. J'imagine que c'est une façon, parce que tu as un trait, on le voit quand on feuillette ton œuvre, dans le fond, tu as un trait qui est simple, qui est précis. Et j'imagine que dans le contexte d'un récit où on amène justement ce type d'intrigue-là, de réflexion-là, avec beaucoup de personnages féminins, mais il faut trouver une façon de les distinguer. L'anthropomorphisme, c'est un peu imposé, j'imagine.
Oui, ça s'est imposé sans trop réfléchir, parce que là, c'est plus facile, parce que comme j'expliquais, sans vouloir me dénigrer, je ne suis pas une dessinatrice, j'adore dessiner, mais... Mais je ne suis pas une dessinatrice virtuose. Et je n'aurais pas pu faire des finesses entre tel visage, tel visage, tel visage. Alors qu'un chien, un chat, un hippopotame, je peux plus m'en tirer. C'est plus facile à dessiner, puis c'est dur à dessiner un visage vraiment humain. C'est dur, je trouve ça dur. Je préfère hybride, c'est beaucoup plus facile. Ou comics, un peu. Là, en ce moment, je fais des personnages pour un projet. Ils ont soit une grosse boucle au-dessus de la tête, un nez, des yeux, mais ça marche. Ou soit comme une espèce de fontaine au-dessus de la tête, ça marche. Mais je n'ai pas trouvé ça pour... J'aurais pu, mais je ne l'ai pas trouvé. Alors, j'ai mis les animaux.
Et des fois, j'ai l'impression, même si on élargit un peu, qu'il y a toujours une volonté aussi de ton côté d'aller vers l'essentiel, puis que des fois, il y a comme la réflexion de, ben, okay, qu'est-ce que je pourrais enlever? Qu'est-ce qui n'est pas essentiel? Qu'est-ce qui n'est pas central?
Oui, oui.
Pour limiter un peu aussi...
Oui. Ça reste... Ben oui, les animaux, ça, c'est comme... comment je pourrais dire, c'est valorisant, je trouve, à dessiner. Ça valorise le dessin. Dans mon cas, je sens que mon dessin est valorisé quand je mets un tête d'animal. Plus facile. Il sort des cornes ou des oreilles. C'est plus facile que des cheveux. Je ne sais pas comment dessiner des cheveux. Ondulé, je sais pas comment dessiner ça.
Mais c'est que de l'autre côté, avec les dessins sont simples, mais sont très expressifs aussi, parce que tu perds jamais en expressivité, tu perds jamais en souplesse non plus là-dedans, donc il faut quand même faire l'équilibre, et j'ai toujours l'impression que des fois, oui, faire simple, ça peut paraître la béquille, entre guillemets, quand on trouve qu'on a peut-être un peu moins d'aptitude à faire d'hyper-réalisme et le reste, mais c'est pas facile faire du bon simple non plus, je veux dire... Pour réussir à le rendre correctement.
Oui, oui, il y a Parando. Tu vois, c'est qui Parando? Il va loin là-dedans. Je l'admire. C'est vraiment simple. Tu peux pas plus simple. C'est impossible. C'est comme là, en ce moment, il fait un album, c'est The Eggman. C'est une forme d'œuf avec des yeux. Des tout petits jambes. C'est à peu près tout. Puis il ne se passe pas grand-chose dans les histoires non plus. Mais il a l'art de faire ça.
Je t'ai déjà vu citer Copy aussi.
Copy. Ah, mon Dieu, Copy. J'aime beaucoup, beaucoup. Puis moi, je trouve qu'il dessine très bien, mais au Nouvel Observateur, quand c'est le directeur de l'époque, que je ne me rappelle pas son nom, qui l'aimait beaucoup, qui l'avait introduit au Nouvel Observateur, mais personne ne comprenait son choix. Je dis, mais c'est du dessin d'enfant, c'est pas bien dessiné, c'est quoi ce truc? Mais en fait, moi, je trouve ça vraiment très beau. Enfin, en fait, c'est très beau. C'est très beau. C'est vraiment un gros nez qui fait tout le visage, en fait. Le visage, c'est comme plus le nez, ou un bec. Puis ils sont tous assis, puis ils n'ont pas de vêtements, c'est pratique aussi. Les vêtements, c'est un an un peu aussi comme les cheveux.
Ça c'est coûte. Des couches.
Ouais. Oui, ça divise. En ce moment, mes personnages, en fait, c'est pour Québec, pour les lampadaires dans la ville de Québec, tu sais, sur la rue Cartier. Puis j'ai les personnages, et ils sont tout nus, uniformes. Ils ont peut-être des pantalons parfois. Puis la couleur de la tête, c'est la même. Sauf les mains. Alors, c'est comme s'ils étaient. C'est comme s'ils avaient un jump. Enfin, en tous les cas, c'est une incohérence. Ça se peut pas. Mais c'est très pratique. Là, je suis vraiment contente avec ça.
C'est cette approche, ce type de personnage-là, dans le fond, tu étais venu un peu, de ce que j'en comprends, de ce que tu m'en dis, un peu d'un côté par nécessité, mais de l'autre côté aussi par volonté.
Oui.
Pousser ça jusqu'à un certain paroxysme ou jusqu'au bout
de ça. Là, j'en ai reperdu de mal dessiner. À un moment donné, je me dis, tiens, ça va bien, je dessine de plus en plus mal. Puis je trouvais que c'était bon signe. Puis je me suis un peu appliquée. Puis je voudrais revenir un peu en arrière.
D'avoir moins conscience de la méthode, justement, de l'approche.
Oui. Je ne sais pas si ça va se prêter avec le film que je fais en ce moment. Comme il y a un gars que j'aime beaucoup en animation, Paul Greeson. Ces personnages, ils ne sont même pas finis. Ils sont tout tremblotants. Puis quand ils marchent, ils retraient dans l'espace. Et souvent, ils vont dans la ligne de fuite dans l'espace. Ils rétrécissent exagérément par rapport à... lui, c'est advienne que pourra. Puis c'est magnifique, c'est vraiment beau. Mais en même temps, il y a une souplesse dans le dessin.
Et peut-être que justement, en changeant tout le temps de médium ou d'approche comme ça, ou en passant autant de l'une à l'autre, ça te force justement à jamais trop développer de confort, de routine dans ton approche visuelle?
Il faut que ça... Je sais pas, dans le fond. C'est pas tellement défini comme ça. Ça arrive après coup, comme... Ah, tiens, là... comme on dirait que je veux trop bien... Je m'en rends compte après. On dirait que je veux trop bien faire. C'est un peu ça que je me dis en ce moment. Quand je vois... J'aime le film, j'aime les filles. Mais bon, je l'aime aussi. Je suis contente de l'avoir fait exactement comme ça. Mais pour maintenant, je me dis, j'aimerais ça déraper un peu. Mais je ne sais pas si je vais être capable pour le prochain film que je fais. Parce que ce qui ressort en dernier lieu, c'est pour le film, au service de la narration en premier. Fait que je ne veux pas être distraite par... quelque chose, parce que j'ai juste le goût de m'amuser. Enfin, oui, je veux m'amuser. Alors, mais enfin, oui, je suis tiraillée. Parce que je veux m'amuser aussi. Je suis toujours un peu plus heureuse quand j'ai l'impression qu'il me pousse des cornes quand je fais quelque chose. Et là, je dois avouer que j'en aurais envie de être un peu plus... Ouais, un peu plus cornu, un peu plus mauvais élève ou cancre.
Puis j'imagine que c'est ce qui peut amener des fois aussi quand on nous approche avec des projets qui sont incongrus ou surprenants. Et je pense justement, on l'a mentionné, le petit livre pour les géants. Oui. L'idée, dans le fond, de faire le plus grand imagier, carton, là, dans le fond, en termes de taille. Là, on parle vraiment d'un ouvrage qui est gigantesque. Mais, on arrive avec une proposition comme ça, ça doit susciter un peu, justement, ça doit corner un peu là, quand...
J'ai un petit peu... Il y a eu un peu d'écart, mais pas assez à mon goût. Mais c'est Nadine Robert qui m'a invitée à faire le grand livre. Puis elle dit que ça faisait longtemps qu'elle avait pensé faire un livre aussi grand qu'un livre qui s'appelle « Le plus grand livre au monde » par Richard Scarry. Justement, j'avais peur parce que c'est tellement beau. Déjà, le plus grand livre du monde. Et je voulais pas faire une surenchère de le plus grand livre, plus grand que le plus grand livre. Et donc, j'ai appelé le petit livre. Mais je voulais pas faire de fausse humilité non plus. Alors, c'était le petit livre pour les géants. Fait que comme ça, il est petit pour les géants. Puis là, j'ai le géant des lieux. Parce que Nadine m'a dit que... Parce qu'il fallait avoir quand même à peu près 80 mots. Mais il y en a de certaines pages, il y a... 140 mots dans une page. Elle dit pour trouver des mots, il faudrait des lieux très distincts pour que tu puisses trouver des mots. Donc, là, je me suis dit, bon, il y aurait peut-être des lieux comme la forêt, la mer, le lac, la montagne, la prairie, la ville. Et en fait, oui, là, j'ai peuplé comme je pouvais ces lieux-là. Et les petites cornes sont arrivées de temps en temps, comme le renard et le corbeau et le renard, au lieu d'un fromage, c'est un, le corbeau, le renard, oui, c'est un camembert, ou quelqu'un qui, enfin, des petites affaires un peu comme ça, mais pas beaucoup en fait.
Et dans l'ouvrage, tu avais choisi aussi, et ça, c'est, je pense que c'est une des fois où c'est un peu plus mis de l'avant, mais tu avais mis une vingtaine de mots traduits en langue abénakise.
Oui, 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 oui.
C'est pas quelque chose de fréquent non plus. Je pense que c'est la première fois que je voyais ce pont-là vers...
Oui, ben là, de plus en plus. Hein, il y a comme une révolution culturelle chez les Autochtones. Alors, on voit de plus en plus les bandes dessinées dans une langue autochtone. Des livres pour enfants, ça sort là. Moi je suis en train d'apprendre l'abénaki, puis c'est arrivé à peu près vers la fin du livre, ça serait fun au moins un mot par page, et j'ai écrit ça à Nadine Robert, elle m'a dit ah, mais en quatre, et j'étais contente qu'elle embarque, puis en plus avec quatre mots, et non, je suis bien contente de ça. Après mon prof d'abénaki dit ouais, mais là il faudrait maintenant un livre tout en abénaki, mais c'était pas le mandat, donc.
Et l'avantage de la langue.
Tout en abénaki, j'aimerais ça aussi.
J'imagine qu'on revient un peu à où on était démarré, un peu dans les recherches, les aspects identitaires. Dans le fond, se réapproprier une langue comme ça.
Ah mon Dieu, oui, ça m'a fait.
Un impact pour ses ancêtres, ben ça.
Oui, ça fait du bien, ça. Justement, dans le côté de se rapailler un peu, là, ouais, ça fait du bien. Mais aussi pour me rapprocher parce que je suis déconnectée des communautés. Je n'ai pas du tout vécu dans une communauté parmi des autochtones. Je suis plus une amie des autochtones avec du sang autochtone, un peu, mais avec un nom autochtone. Mais je n'ai pas de culture autochtone réellement. Parfois, j'aime bien penser que les rêves, l'importance que j'accorde aux rêves, ça vient en souterrain, que ça vient des autochtones. J'aime bien penser ça. Mais à part ça, si j'allais, peut-être à Odanak, je peux me présenter comme Abénaki, mais si j'allais voir une autre communauté, je me présenterais pas comme une autochtone. Là, je suis autochtone, salut. J'ai un ami des autochtones. La langue, ça a été le plus beau moyen de prendre contact. Parce que la première langue que j'avais commencé à apprendre, c'est l'Anishinaabe, parce que l'Abénaki ne s'enseignait pas à Montréal. Alors, je dis, bon, au moins, n'importe quelle langue autochtone, je vais rester à Montréal pour l'apprendre. Et puis, oh, le bonheur que j'ai eu, parce que là, j'avais vraiment l'impression de rentrer dans une communauté autochtone. Taper à la porte, puis qu'on me dit « Bienvenue, tire une bûche », puis là, de rentrer dans la cuisine avec... Là, j'étais contente, parce que sinon, je ne sais pas comment encore vraiment... Par la langue, comme ça, tranquillement. Je ne suis pas quelqu'un de j'aime bien la campagne, mais je viens pas des grands... Je serais perdue un peu d'aller... Je sais pas, enfin, à la pêche, à la chasse. Je viens de la ville et je suis un peu perdue. Je serais un peu perdue. Il faut que j'y aille tranquillement. Je n'ai pas l'appel des grands espaces, du territoire et tout ça. Je ne connais pas ça. Ça me ferait peur un peu.
Un peu tout le reste, aller à son rythme.
Oui, tranquillement, vraiment. Là, juste déjà par la langue. Oui, oui.
Et évidemment, enfin, on l'a mentionné, donc il y a le film le plus thriller qui s'en vient, donc qui sur lequel tu travailles. Sinon, on peut replonger, on a mentionné quelques titres, que ce soit J'aime les filles, Caspar, le petit livre pour les géants, Ici comme ailleurs. Plusieurs de tes films, d'ailleurs, sur le site de l'ONF, si les gens veulent aller les voir. Peut-être juste dernière question en conclusion, justement, quelqu'un qui ne connaît pas encore Diane Abom-Sawin, par quelle œuvre tu lui recommanderais de commencer ou quel ensemble d'œuvres tu lui recommanderais de commencer?
Ici par ici, j'aime bien parce que ça parle de mon enfance un peu, donc avec ma voix, donc ça se rapproche de ma personne et on peut savoir tout de suite si on n'aime pas ça. Là, tu n'insistes pas, tu passes à autre chose, ou si tu aimes bien, ben, là, tu peux continuer. J'irai avec Ici par ici, peut-être. Le film, un film
d'aller à ta rencontre, à la rencontre de ton enfance.
C'est la façon de raconter les histoires aussi. On peut rire, mais c'est pas drôle, ou c'est drôle et c'est pas si dramatique que ça. Il y a vraiment rien de dramatique, mais il y a quand même. J'avais une amie qui me dit, il y a des larmes quand même en dessous. C'est comme une amie m'avait dit aussi, c'est un understatement. C'est par l'humour en fait que les histoires sont racontées, par des anecdotes. Par exemple, mon père nous avait comme pris un peu à la sortie de l'école, sans que ma mère le sache, puis on avait pris le bateau, puis pour aller à Montréal. Ça peut être un peu tragique, dans un sens, pour ma mère en tous les cas, mais ou même pour les adultes que mes parents étaient. Pour moi, c'était comme, puis l'école, là, le bateau. Mais en même temps, il y avait sûrement quelque chose que je chantais, mais c'était focusé sur la banane que j'avais oubliée à l'école. Puis que j'avais angoissé pendant 7 jours sur le bateau à cause de la banane qui reste dans le sac, qui va tout pourrir. Puis l'idée de laisser derrière soi quelque chose qui pourrit comme souvenir. Je me dis, elle qui laisse sa banane pourrir. Ma mère, j'y pensais pas trop parce que je pensais qu'on allait la revoir au détour, puis c'est ça qui est arrivé. Alors c'est un peu ça, c'est un peu ça le film. Ça explique comment les enfants, en tous les cas comment je l'ai vécu, on voit pas les choses, ça dépend du degré, mais on voit pas les choses si terribles que ça. Mais on le transpose ailleurs en fait. Enfin, et puis ça, pour faire un film, ça marche bien. Dans un récit, c'est drôle de dire « je t'inquiète parce que j'avais laissé une banane pourrir à l'école ».
Et quand on pense à ce qu'il y a derrière, ben là, ça apporte une richesse à ce qui peut sembler anodin au départ. Là.
Oui, c'est ça. Mais c'est apparemment anodin parce que en fait, il y avait sûrement, c'était comme « ouais, c'est pas normal, là. Qu'est-ce qui va nous arriver ? Où est ma mère ? Où est-ce qu'on va ?» Donc, c'est une façon de raconter ça. Même le film que je fais maintenant, qui est plutôt un cauchemar, quand je l'ai montré à ma productrice, elle m'a dit « j'ai tellement ri, j'espère que ça t'insulte pas », parce qu'elle sait que c'est pas comme juste drôle, mais qu'elle a dit qu'elle a ri, ça m'a j'étais contente, parce que j'aime beaucoup ça, le fait de dédramatiser. Même pour J'aime les filles, quelqu'un m'a dit ça aussi, c'est bon parce que ça dédramatise. C'est raconté comme ça afin de dédramatiser des situations difficiles qui pouvaient être difficiles, par rapport à être victime d'une situation, plutôt rire de cette situation.
Donc, une porte d'entrée que tu nous offres, évidemment, il peut un peu en avoir d'autres, mais ici comme ailleurs, donc c'est ça qu'on suggérait au terme de cette conversation. Diane Obom-Sawin, alias Obom, merci beaucoup pour cette rencontre avec nous.
Merci beaucoup. Salut.
Eh bien, voilà, c'est tout pour cette semaine. C'était Raymond Poirier au micro. Toujours un plaisir d'être avec vous et on se dit à la semaine prochaine.